les anciens ont proposé, après d'avoir fait un livre entier, Matthieu, on s'est dit, bon, comment on a réussi à faire la Bible, Matthieu en entier, on va essayer de faire la Bible en entier. Alors, il y en a qui se sont dit,
ça
si on a
fait
fait.
66 ans.
C'est ça. Il y en a qui se sont dit, si on fait Matthieu en 18 mois, ils ont calculé, ils se sont dit, ce sera peut-être nos arrière-petits-enfants qui termineront la Bible avec nous. Donc, ne vous inquiétez pas, on le fera évidemment, comme on dit, un overview, un survol. Pourquoi? Et là, je parle à ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas là aujourd'hui. Je pense à Spiro Bargi, je pense à Alex, je pense à Jean, qui j'espère pourront découvrir, et qui d'autres, qui vous pensez, qui pourront peut-être découvrir cette introduction, en tout cas cette introduction qui va faire parler un peu tout le monde. Je n'ai pas préparé un message, comme on dit, per se, hein, pour ainsi dire, mais je l'ai préparé afin de donner envie de découvrir ce survol ensemble. Alors, un survol de la Bible, c'est une sacrée mission. On va essayer de le faire en 104 semaines, Dieu voulant. Hein? Ou 52, peut-être plus, comme on a fait avec Matthieu. On l'a fait en 1 an et demi, hein, je crois, Matthieu. 1 an et demi.
On a commencé en septembre.
Septembre, on a fini en fin mars. Donc, on a réussi à faire en 1 an et demi. Un survol, évidemment, un survol de la Bible. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi faire un survol de la Bible? Comment faire un survol de la Bible, mais aussi de vous donner envie de traverser un peu, finalement, tout le conseil biblique de A à Z. Hein, on va essayer de se donner, tiens, des défis. Tiens, je vais essayer de lire tout Genèse cette semaine ou ces 2 semaines. Parfois, on vous donnera des tronçons à lire. Comme ça, vous ne devez pas faire des livres entiers si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la force ou l'énergie. Hein, okay. Peut-être que c'est indigeste. Et notre désir aussi, c'est c'est de comprendre les enjeux. Pourquoi est-ce que, en fait, on est invité à faire quoi, 1500 pages à peu près? Oui, plus ou moins, ça dépend des versions, mais disons 1500 pages. Ça représente quelque chose comme 7-8 livres normaux. Hein, peut-être une dizaine selon que c'est en caractère. Donc, c'est 10 livres qu'on va se faire sur 2 ans, quoi. C'est quand même pas rien. Hein. 10 livres de 300 pages, on va dire. Alors, j'ai envie de vous demander, à vous, qu'est-ce qui vous donnerait, qu'est-ce qui vous fait peur d'abord? Quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible en entier ici. Ok, donc 1, 2, 3. Ok, donc tous les autres, nous avons déjà lu la Bible au moins une fois. Et toi non plus. Donc ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et en général, même parmi les protestants, oui, on a une connaissance, une très bonne connaissance des piliers de la Bible, mais on n'a pas été dans certaines zones comme les chroniques de la Bible, les rois incessants qui n'arrêtent pas de défiler, les prophètes mineurs, comme on les appelle en anglais, ou les petits prophètes en français. Hein, les prophètes, on se demande pourquoi ils sont là. Hein, évidemment,
parce
il y a des livres qui ont...
Hein? Parce que c'est court.
Oui, parce que c'est court. Non, mais c'est vrai. Un prophète qui a 12, 14 chapitres, c'est plus évident et pourtant peut-être assez complexe parce qu'il y a beaucoup de d'incompréhension, on ne sait pas. Et parmi vous, il y a quelqu'un qui est Manu qui m'a aussi dit comment est-ce que je peux savoir que ça s'adresse à moi? Oui? Quand je lis la Bible dans son entier conseil, pourquoi est-ce que je sais que c'est à moi, ça s'adresse, c'est pas seulement à la personne de l'époque. Et je pense, dites-moi si vous êtes honnête avec tout le monde ici, que ça nous est arrivé tous dans la lecture de la Bible. Tiens, qu'est-ce que moi je dois prendre de ce conseil? Est-ce que moi, c'était pour la personne de l'époque, mais qu'est-ce que moi je dois en faire de ce conseil? Oui. Et c'est un petit peu tout ça qu'on va voir. Il y a des piliers, on va voir, des versets de promesses que Dieu a accompli en Jésus-Christ, mais il y a aussi des versets qui ne sont pas encore accomplis. Et il y a des gens qui vont dire, comment ça? Il y a des versets qui ne sont pas encore accomplis, alors que Jésus a dit, tout est accompli.
Oui, mais le concernant.
Le concernant lui.
Pas le concernant moi totalement.
Oui, mais pourtant, s'il dit, tout est accompli, mais qu'il y a encore des choses à accomplir, il y en a qui se disent, ah, mais alors on peut écrire encore des choses qui ont une valeur, qui ont une valeur du canon, qui ont une valeur d'autorité. Est-ce que vous saisissez l'enjeu? si Jésus-Christ dit tout est accompli et qu'en même temps il y a des paroles qui ne sont pas encore accomplies, oui, alors il y a des magistères, il y a des choses qui sont écrites dans certaines sectes ou d'autres façons de comprendre la Bible en disant mais nous on peut encore écrire des choses qui ont une autorité autant importante. Donc c'est aussi comment est-ce que pourquoi est-ce qu'on a ce livre là et pas des livres en plus, oui.
Mais,
Jérémy, bien parler fort pour le.
Oui, j'entends bien.
Bien fort, bien fort.
Donc, moi je me pose la question, quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire que tout est toutes les prophéties qui sont après lui n'ont aucune valeur, en ce sens que. Donc, il y a une partie des prophéties qui disait que Dieu allait venir sur la terre via Jésus, et. Et une autre, que Dieu va revenir. Mais Jésus est venu une première fois, donc Dieu est venu une première fois, mais il va revenir une deuxième fois. Donc c'est pour ça que tout n'est pas accompli. Mais d'un côté, le plus important a été fait, le pardon. Donc en fonction de la mort, ben, tout est accompli. Hop, la chose est faite, et on n'en parle plus. Maintenant, il faut que Jésus revienne.
Mais donc, est-ce que, dans les choses qui doivent encore s'accomplir,
oui.
Seul le retour du Christ est dans les promesses, vous voyez. Parce
mais
que.
À la croix, il dit tout est accompli, il n'est pas ressuscité.
C'est ça.
Donc c'était.
Déjà.
Mais tout a démarré. C'est le démarrage.
C'est la résurrection.
Une fois que ta voiture est mise en route, tout est accompli, elle démarre.
Mais pourquoi tout est accompli?
Mais merci Manu aussi pour. C'est tout est pertinent. Hein. Merci Manu qui nous rappelle que Jésus-Christ, quand il dit tout est accompli, n'est pas encore ressuscité. Ça vous. Quelle est votre réponse à ça?
Hein? C'est que ce qu'il avait à faire a été fait sur la terre.
L'heure pour laquelle il est venu.
Ouais.
Voilà.
La mission.
La mission sur terre a été faite.
Alors voilà. Voilà une chose très importante. Tout est accompli sur la terre. Mais dans la prière qu'il va dire, ne va-t-il pas dire notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, hein, sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire qu'il y a encore une partie qui doit s'accomplir. C'est-à-dire que sur cette terre, il y a eu une partie qui est accomplie, c'est-à-dire son ministère à lui, mais il y a encore une partie qui est en train de s'accomplir. Vous êtes d'accord? Et une partie qui est en train de s'accomplir, c'est son œuvre dans les chrétiens. Dans tous ceux qui sont...
C'est l'Église.
Hein, c'est l'Église, oui. Jusqu'à la fin. Oui. Et c'est pour ça que quand on avait quitté Matthieu 28, il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Oui. Hein, jusqu'à la fin des airs. Et la fin des airs, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette terre, jusqu'à ce que je revienne. Donc ça veut dire qu'il y a en effet une plénitude totale qu'on n'a pas encore maintenant. Hein. Malgré que tout a été accompli en Jésus-Christ, sur la terre, il y a encore une plénitude qui doit encore venir, parce qu'on est encore dans le péché, dans la souffrance, etc. Et alors, on voit, on va découvrir pourquoi est-ce que c'est important. Parce qu'il y a encore des promesses que je peux acquérir. Il y a encore des choses que Dieu me promet, qui sont dans le futur, mais il y a aussi des promesses que je peux avoir aujourd'hui. Oui. Ne vous inquiétez pas, va dire Jésus dans Jean 16, 33. Il dit, vous aurez des tribulations, oui, vous aurez des persécutions, vous aurez donc des souffrances, mais moi je serai, qu'est-ce qu'il dit? Mais moi je vous donnerai
prenez
là.
Prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Hein? Voilà, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde, hein, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais moi je vous donne ma paix. Donc il donne des promesses que l'on peut vivre malgré les tribulations. Okay? Alors ça c'est une chose, donc il y a des choses à venir. Maintenant, à quoi servent les choses du passé? Est-ce qu'on peut projeter, juste peut-être en désordre, selon que ça vient dans mon esprit, Romains 15, 4. On regarde un peu Romains 15, 4. Donc les enjeux, c'est, il y a des promesses qui sont en train de se passer. Deux, ok. Est-ce que quelqu'un peut les lire?
Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance.
Est-ce que c'est pas un verset extraordinaire, ça? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce verset? Je suis dans le chemin, c'est ça?
Non, je vais monter.
Oui.
Pardon. qu'est-ce que nous dit ce verset? À brut pour point, comme ça, sans réfléchir profondément, voilà.
Il y a des leçons à tirer de l'Ancien Testament pour nous encourager.
Leçons de l'Ancien Testament, instruction, quoi d'autre?
Des exemples.
Des exemples, oui.
L'encouragement.
L'encouragement.
Parce qu'on voit qu'avant, Jésus a accompli les promesses, mais pourquoi il n'accomplirait pas maintenant, en sachant qu'il est le même du début à la fin.
Il est le même du début à la fin, donc il va accomplir des promesses en nous, oui, quoi d'autre?
Et si l'espérance, c'est quoi? C'est l'espérance telle qu'il est utilisée dans Romains, c'est-à-dire l'espérance d'une vie...
C'est ça. Voilà. En fait, l'espérance du futur nous donne une énergie, nous donne une dynamique. Oui. Hein? L'esprit, d'ailleurs, est souvent comme une dynamo. Oui. Il nous est donné comme une présence dynamique en nous, qui nous fait voir justement des choses plus loin à chaque fois que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui. Donc, les prophètes va dire... on a fini pour celui-là? L'encouragement, quoi d'autre? Moi, je vois pas bien, je dois me mettre sur cette photo comme ça. La patience. Oui, on n'avait pas encore parlé du mot patience. Ça veut dire quoi, la patience?
Je sais pas, moi, je vois patience là-dedans, je pense au peuple de Dieu qui attendait le Messie, en fait.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça, ou nous qui attendons le retour de Jésus. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses, mais tu me demandes à brûle pour point, je pense.
C'est bien, oui, oui. Donc, ils ont tous vu des visions, ils ont tous vu des révélations, que tous n'ont pas vu l'accomplissement, hein, comme va le dire dans l'auteur du livre des Hébreux, il va dire, nous avons la chance, parce que nous avons vu, mais eux, ils ont eu cette patience, cette endurance, en fait, le mot c'est endurance. Voyez, ils ont enduré jusqu'à ce qu'un événement soit accompli, mais pour nous, va nous dire Paul, là on est après la résurrection, regardez ce qu'il nous dit, il nous dit, afin que la patience et l'encouragement, donc l'encouragement qu'apporte l'Écriture, produisent en nous l'espérance. Donc ça veut dire que l'endurance, la patience, oui, va nous donner une force pour pouvoir faire face à tous les événements en fait pénibles de la vie. Hein, la patience, parfois on ne comprend pas sur le moment même pourquoi on vit des choses très difficiles. Oui. Et les Écritures nous aident à mieux vivre l'événement de la souffrance, en fait. Le peuple dans le désert, notamment, les 40 ans dans le désert, et peut-être les 40 ans de votre vie à vous.
Hein. C'est triste, ils ne sont pas rentrés dans le pays.
Ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Pourtant, on va voir que certains rentrent dans le pays promis.
Deux.
Hein, Josué et Caleb et toutes leurs générations qui ont suivi. Oui. Pour quelles raisons? Juste, j'anticipe là, mais c'est dans le sujet, mais hors de ma ligne de temps. Pourquoi est-ce que seulement Josué et Caleb vont rentrer dans le pays promis?
Désobéissance.
Désobéissance des 10 autres. Oui. Donc, à l'époque... Quand ils vont se trouver dans le pays promis, je saute déjà des étapes, j'y reviendrai après. À un moment, Moïse va dire, on va aller voir ce qu'il y a dans le pays promis. Pourquoi? Pour qu'en 40 jours, ils fassent un aller-retour et qu'ils amènent quoi? Qu'est-ce qu'ils vont ramener du pays promis? Rappelez-vous de ce qu'ils vont ramener.
Des raisins.
Des raisins, un cep, une énorme branche qu'ils vont porter dans le désert. Et à mon avis, je ne sais pas si vous voyez ce genre de branche, dans le désert, toi qui y as été, ça ne tient pas trop la route, hein. Une branche de raisin qu'on tient dans le désert. Donc, il devait vite revenir pour venir montrer. Oui.
Non, mais c'est une énorme grappe aussi. Hein.
C'est une énorme grappe.
Il y avait un paquet d'eau dedans, donc il y avait le temps. Hein.
Il y avait le temps.
C'était une grappe comme ça.
Mais dans le désert, etc., de là-bas, c'est pas évident, je veux dire. En tout cas.
Ça devient un raisin sec.
Ça devient un raisin sec. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, ce sont les deux seuls, Josué et Caleb, qui vont ramener la vigne et qui vont dire Moïse avait raison, il y a un pays promis avec des belles choses qui arrivent.
Et des géants.
Et des géants. Mais les 10 qui étaient avec eux ont dit, « Oui, mais non, il y a des géants, il ne faut pas aller, c'est dingue, Moïse. C'était mieux avant. » Oui. Il y a toujours ce contraste. Il y a certaines personnes qui voient les promesses, il y a des gens, et Dieu montre des fruits à l'avance. Oui. Tout autant qu'il a montré qu'il y avait une grappe de raisin, qu'il y avait des choses, il va montrer par la présence de Jésus-Christ, oui, des choses à venir. Pourquoi est-ce qu'il vient sur la terre? Pas simplement pour mourir, mais il vient sur la terre aussi pour, on l'a dit la semaine passée, pour ressusciter, pour montrer. En fait, la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fruit du futur, qui nous montre maintenant.
C'est montrer qu'on ne meurt pas dans la vie.
C'est montrer qu'on vit toujours avec Jésus-Christ. On meurt physiquement, mais qu'on vit toujours avec Jésus-Christ. Oui, qu'on ne meurt pas une deuxième fois, quoi. Hein? Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Hein? Donc, on meurt tous, mais pas de mort spirituelle, tous. Okay, mais en tout cas, ce qu'il va faire, Jésus-Christ, il va faire comme Josué et Caleb ont fait. Est-ce que vous voyez déjà, est-ce que tout le monde comprend ce que je viens d'expliquer sur le fait qu'il va montrer des fruits à l'avance? Oui. Donc, Ce que j'essaie aussi de saisir, c'est un autre verset.
Mais Hébreux dit, ils ont vu les promesses de loin, ils les ont aperçues.
Ils les ont aperçues.
C'est ça, le fruit à l'avance.
C'est ça.
C'est les promesses aperçues.
Voilà, voilà. Mmh. Mais un Abraham va voir, va, par exemple, quelle va être la mission de Abraham ?
Faire montrer Dieu et son fils Jésus le sacrifice.
Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui dire surtout, quitte ce pays. Et il va faire 2500 kilomètres. Je ne sais pas si vous avez fait quelques kilomètres dans la Bible. Dans la... C'est énorme quand on doit penser 2000 kilomètres comme ça à pied et à dos de cheval, d'âne et de chameau. Donc il va devoir quitter son pays pour aller vers un pays que plus tard on appellera le pays Canaan ou bien avec Jacob, le pays de Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Israël ? Ish, Ra, El. Absolument. L'homme, Ish. Ra combat Dieu. L'homme lutte avec Dieu. Ça, c'est tous les chrétiens. C'est qu'on est des lutteurs avec Dieu. Alors, il y en a qui traduisent lutteur contre Dieu. Il y en a qui traduisent on est en lutte avec Dieu sur cette terre. Ce que je préfère personnellement. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé du nom ? On va se rendre compte qu'il y a un fil rouge dans tout l'Ancien Testament qui nous amène à Jésus-Christ. Alors, on va voir, si tu veux bien nous projeter. Éphésiens 1:10. Regardez bien Éphésiens 1:10. Est-ce que quelqu'un peut le lire ? On l'a déjà lu la semaine passée. 1:10 et 11, s'il est aussi dessus.
Oui.
Oui. Quelqu'un peut le lire ?
Il commence mal.
Pour conduire les temps vers l'accomplissement. Il manque le début.
Oui.
Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qui avait été fixé. À ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance.
Quel est ce qui est ici, pour moi, le plus important, c'est ceci. Donc, selon le plan de Dieu, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni, oui, sous le gouvernement du Christ. Oui. Alors, le gouvernement du Christ, c'est anakephalé, c'est-à-dire tout sous le joug de sa tête. C'est lui la tête de tout. Okay? Et c'était prévu depuis tout temps que Jésus-Christ arrive sur la terre. Alors, je ne vous apprends rien de nouveau avec ce verset-là. Est-ce qu'on peut faire encore un ou deux versets ? Encore un Pierre 1:10 et 11. Un verset qu'on a vu très important aussi. Les prophètes, quels étaient leurs jobs ? Ce salut a fait l'objet de recherches et des investigations de ces prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Et verset 11, tu ne l'as pas ? Alors, le verset 11, là, il annonçait la souffrance et les gloires du Christ. Vous vous souvenez de ça ? La souffrance et la gloire du Christ. Tu peux le mettre si tu le trouves ? Alors, regardez bien le verset 11 qui apparaît. Voilà la technologie d'aujourd'hui, c'est génial. Le verset 11. Ils cherchaient ces prophètes. Regardez bien le travail des prophètes. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapporteraient les indications données par l'Esprit du Christ. Tous, ils étaient donc dirigés par... L'Esprit du Christ. C'est intéressant de savoir que les prophètes avaient déjà l'Esprit du Christ. Et puis on dit, cet Esprit était en eux et il annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Est-ce que vous voyez les deux binômes de nouveau qu'on avait la semaine passée ? Les souffrances et la gloire. La crucifixion et la résurrection. Ok, donc tout ça converge vers Jésus-Christ, on est d'accord. Alors, pour ceux qui se demandent comment est-ce que la Bible est ficelée, je vais d'abord parler et puis je vais vous... Si tu peux mettre 1 Corinthiens 1:30 et le cacher, si c'est possible. Hein? Alors...
On peut encore le mettre.
Donc, je vais vous lire un verset qui, dont on a déjà un peu parlé, mais je vais vous le lire. Oui. Pour quelle raison... Hein? Pour quelle raison on a la doyenne de notre église qui est avec le plus petit de l'église. Intéressant comme photo. Alors... Regardez bien, je vais vous lire un passage que vous connaissez en partie. Pour quelle raison est-ce qu'on va aller faire un survol biblique ? Pour quelle raison d'abord on va le faire ? Hein ? On va le voir un petit peu. Hein ? Pourquoi on va le faire ? Alors, je vous invite d'abord à la question. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant de faire un survol biblique ? Dites-moi. Il n'y a pas de mauvaise réponse, j'imagine, j'espère. Pourquoi est-ce que vous seriez invité à faire un survol de A à Z de la Bible ? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de faire ça ?
Parce qu'on ne peut pas mettre en pratique ce qu'on ne connaît pas, et mettre en pratique c'est bâtir sa maison sur le roc.
Donc, en résumé, parce que ça nous instruit.
Parce que c'est le chemin qu'on doit prendre si on ne le connaît pas.
Voilà.
C'est le fondement de
notre vie. C'est le fondement de notre vie, de la vie intérieure. Hein? Quoi d'autre? Qui d'autre tient survole la Bible, tout ça bien, oui?
Pour ma part, c'est pour mieux voir la gloire de Dieu.
Pour mieux voir la gloire de Dieu, c'est un mot important, je dirais même crucial. Hein? Il y a deux mots importants que Dieu nous donne dans sa parole. Il nous montre que c'est lui la gloire, pas nous. Lui, il nous utilise pour sa gloire. Oui. Hein? Donc, chaque fois, il nous humilie. Parfois, il nous rend humble. Oui. Quand il nous humilie, c'est quand il nous écrase, quand on est beaucoup trop écrasant nous-mêmes, quand on se donne beaucoup de gloire. Donc, quand on en fait, se donner beaucoup de poids, c'est ça. Hein? Au plus on se donne du poids, le mot gloire, c'est la poids, c'est le poids. Pas la poids, le poids. Et le deuxième mot, c'est la vie. Oui. Pourquoi est-ce qu'on irait à Jésus-Christ, nous dit Jésus-Christ ? À qui irions-nous, Jean 6 ?
Tu as les paroles
de la vie éternelle, d'accord ? C'est la vie suivante, mais la vie éternelle, c'est quoi ? Nous dit Jean 17, 1, 2 et 3, c'est qu'ils connaissent Jésus-Christ. Avoir la vie, c'est... Ok, donc je nourris de la vie. Donc, il y a des enjeux, la vie, il y a des enjeux, c'est la gloire de Jésus-Christ. Qui d'autre a encore une autre idée ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de connaître les Écritures ? Toutes les Écritures.
C'est l'histoire.
Serrer la parole dans le cœur.
Afin de ne pas pécher.
Hein? Il y a les enjeux du péché aussi. Ça fait mal de pécher. Parce qu'on fait du mal aux autres, mais on se fait du mal à soi. Et toi, tu disais
Ça nous permet de voir que c'est un tout historique et pas juste un manuel d'instruction.
C'est ça. Donc il était inséré dans notre histoire.
De voir que finalement. Tout va nous raconter un petit peu Jésus-Christ dans ces livres-là.
Voilà.
Mais pas dans l'objectif simplement de donner des commandements à l'humanité. Il y a une histoire entre Dieu et l'homme qui voilà. est racontée et progressive.
Alors,
je pense que ça, c'est lourd.
Le mot que Yann emploie ici, il y a une histoire entre Dieu et l'homme. Donc, il y a une relation entre lui que lui veut. Et le mot relation, c'est quoi ? C'est alliance. Dieu, comme nous le savons tous, veut être allié avec nous. Hein. Il sait que nous, on se désallie. Il sait que nous, on ne veut pas de lui. Et lui, pourtant, va montrer à quel point il veut faire de l'homme son ami, en fait. Oui. Malgré que l'homme n'est pas son ami, enfin, ne réagit pas en tant que son ami, Dieu essaie de lui montrer qu'il est son allié. Et c'est toute une histoire de montrer comment les hommes ont réagi par rapport à lui. Il donne la loi. Pourquoi il donne la loi ? On va le voir, hein, on va l'étudier, tout ça. Pourquoi est-ce qu'il donne un tabernacle, une tente ? Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Et vous allez voir... j'anticipe pas, on va parler de comment est-ce que tout l'Ancien Testament est ficelé. Alors écoutez-moi bien, pourquoi on le fait, écoutez-moi bien. Dans Luc 24, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait avec les disciples avant de partir pour de bon ? Après la résurrection, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible, et dans les prophètes, tout ce qui suit après les grands prophètes, les petits prophètes, et les psaumes. Alors les psaumes, c'est un peu une mini-bible de tout l'Ancien Testament. Hein, on y voit tout, on en reparlera des psaumes. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ devait souffrir et qu'il ressusciterait le troisième jour, ok, et que la repentance des péchés serait prêchée. Mais qu'est-ce qu'il va dire après ? Il va dire, j'ai envie d'ouvrir votre intelligence. Il est à quel stade cet homme-là ? Pour ceux qui écoutent, désolé, c'est Jason. Alors ici, il va commencer, Jésus-Christ va commencer lui-même, il dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il va leur expliquer. Donc c'est pour ça, en fait, en expliquant le survol de la vie, on va faire ce que Jésus-Christ fait, quoi. Hein? On va faire le même boulot que lui, en moins bien, évidemment. Oui. Et il y en a plein qui se disent, « Oh, j'aurais tellement voulu être là. » Et moi, je leur réponds, « Eh bien, vous avez la Bible. » C'est exactement tout ça qu'on a dans son conseil, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, et dans toute la suite, et dans tout l'Ancien Testament. Jésus-Christ fait un parcours biblique, et c'est pour ça qu'il y restait des heures avec eux, hein, parce qu'on pense qu'il a fait ça en une demi-heure. Non, 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 il a pris du temps, hein, il a pris quelques jours, on dit une dizaine de jours peut-être, en tout cas dans ces 40 jours.
Ils allaient où les disciples d'Emmaüs ?
Je ne sais plus.
C'est à Samarie, en fait, je pense, parce qu'il part de là.
Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il va ouvrir l'intelligence. Donc, l'Écriture nous ouvre aussi. Manu nous disait, il nous garde de péché, mais il nous ouvre aussi l'intelligence. On parle tout le temps, oh là là, celui-là, il est juste c'est un homme génial, il est intelligent. Oui, pourtant, il rejette Christ. Et Jésus-Christ va dire, moi, je trouve insensé celui qui ne croit pas en Dieu. Parce que ce qu'il va essayer de faire, c'est d'ouvrir notre intelligence, de voir Dieu dans notre histoire, en fait. Parce qu'il dit, regardez l'histoire de Dieu dans leur histoire, afin de pouvoir voir Dieu dans notre histoire. Oui. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, j'ai mon verset qui, pour moi, est le verset préféré, que j'aimerais bien que tu projettes maintenant, c'est gentil. Écoutez bien ce verset-là. Ça, c'est pour moi un verset qui m'a été un des plus puissants de toute ma vie, à moi.
Quel verset ? Parce que j'en ai 31.
Pardon, 1 Corinthiens 1:30, excuse-moi. Donc, écoutez bien ce verset. Pour moi, c'est un résumé de l'Ancien Testament. Si vous avez ce verset dans la Bible, dans votre cœur, dans la mémoire, etc., c'est un verset qui est bien connu, hein. Mais pour moi, c'est le verset qui résume tout l'Ancien Testament.
31 ou 30 ?
Juste 1 Corinthiens 1:30. Juste 1 Corinthiens 1:30.
C'est le dernier verset.
Voilà.
Ah non, c'est le 10, pardon, excuse-moi.
Juste 1 Corinthiens... Oui, pardon. Oui. C'est donc 1 Corinthiens 1:30. Écoutez bien ce verset. Par Jésus-Christ, vous êtes unis par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Alors, ce n'est pas une bonne traduction, permettez-moi d'oser le dire. La traduction juste est celle-ci. Jésus est sagesse, oui, donc, qui vient de Dieu en Christ, la sagesse, oui. Il est sagesse, oui. Il est sanctification, donc ici, sanctification, c'est acquittement. Donc ça, c'est purification. Il est, j'aime pas du tout cette traduction, je suis perdu avec cette traduction. Je vais vous donner la bonne traduction. Jésus-Christ est sagesse, sanctification, justice et rédemption. Vous me suivez ici, là ?
Oui, c'est juste.
Regardez bien. Il est sagesse, sanctification, justice et rédemption. Alors pourquoi est-ce que ça résume tout l'Ancien Testament ? 1. Dans l'Ancien Testament, nous avons la sagesse, les livres de la sagesse. Proverbes, oui. Job, on met les psaumes dedans, etc. Ceci dit, dans la sagesse, il y a aussi la poésie. Hein. Intéressant de voir que ce livre a de la poésie. Donc il y a la sagesse. Ensuite, il y a la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification représente ? Hein ?
Les lois.
Les lois, je dirais plutôt le sacrifice, tout à fait. Le sacrifice, donc les sacrificateurs, oui, sont venus juste après le système de la loi, oui. La loi va être donnée au Sinaï, vous savez, les 10 commandements qu'on connaît tous, j'imagine, oui. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire je vous donne la loi, non pas parce que vous allez l'accomplir, mais parce que vous n'êtes pas saint et elle vous montre le péché. Et va suivre, et ça c'est très important de le savoir, va suivre alors tout un système sacrificiel pour le genre de péché que je vais faire, des péchés volontaires, involontaires, hein, des péchés de grande importance, de moins d'importance, etc. etc. Oui. Et on a les sacrificateurs. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il y a 3 offices que Jésus-Christ va accomplir, oui, et elles sont toutes les 3 ici. Il va être sacrificateur lui-même, oui. Lui-même va sanctifier son peuple, il va le purifier. Il est la justice aussi. Donc le mot ici, je ne sais pas lequel c'est pour le mot justice, mais...
Acquittement.
Acquittement, ok, justice. Alors, il est la justice. Alors, quel était le boulot des rois ? Les rois, qu'on va voir dans la Bible, dans un roi, deux rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, c'est-à-dire une énorme quantité de l'Ancien Testament, on va voir qu'il y a beaucoup de rois qui vont défiler dans toute la Bible. Et pour quelle raison est-ce que tous ces rois sont là ? Pour nous montrer qu'il n'y en a aucun qui est parfait. Il y en a qui vont avoir des bonnes intentions et qui sont ce qu'on appelle les bons rois, hein, qui sont sous des rois comme David, qui ont comme modèle, etc. Et puis après, il y a les mauvais rois, hein, comme Saül et d'autres, je ne sais pas, c'est comme Jéroboam, hein, qui vont être des mauvais rois. Donc il y a quand même des bons rois, et comme par hasard, les bons rois, dure assez longtemps, oui, et on cite tout le temps pour les bons rois, écoutez-moi bien, on cite tout le temps pour les bons rois le prénom ou le nom de leur maman, maman juive. Intéressant. Oui. Ça, c'est un petit. Parce que justement, on voit que ces rois, ils sont ancrés dans quoi? Ils sont ancrés dans l'écriture. Oui. Alors que dans les mauvais rois, on ne parle pas de la maman. Or, par quel biais est-ce qu'on a été juif à l'époque? Par la maman. Un petit point intéressant qu'on verra plus tard. Alors, on a la justice, on a la sanctification, le roi et le sacrificateur. Qu'est-ce qui nous manque dans les offices du Christ? Le prophète. Est-ce que vous me suivez là, Jérémie, tu me suis? Donc, le troisième, c'est le prophète. Et quel est le mot pour le prophète? C'est la libération du péché. Le prophète, oui, c'est la rédemption. Le prophète, c'est celui qui est là pour avertir, pour corriger, pour dire, regarde la loi, regarde ce que tu ne fais pas, mais fais attention, je t'avertis, j'ai envie de te corriger, j'ai envie de t'annoncer des choses. Le sacrificateur, qu'est-ce qu'il lui faisait? Le péché est fait. Son rôle, c'est de faire quoi? Hein?
Soigner,
payer la note, etc. Il prend un animal, il dit, regarde, à cause de ta faute, il y a quelqu'un qui paye. Oui? Le roi, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait, qu'est-ce qui va être écrit dans Deutéronome 17, qu'est-ce qu'il doit faire le roi? Le roi, pardon? Il doit exercer la justice, mais comment? Selon le conseil de l'écriture. Il va être écrit, si vous allez avoir, donc dans Deutéronome, il y a les rois qui vont être annoncés, alors qu'on n'a pas encore de roi, oui? Il va y avoir des rois, et il va dire, les rois doivent méditer le conseil biblique jour et nuit. Comme par hasard, les bons rois, genre Josué, qui n'est pas un roi, mais disons qu'est un bon gouverneur, il va méditer le conseil jour et nuit. David, bon roi, même s'il va faire une grosse faute, il va méditer jour et nuit le conseil de Dieu. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Oui. Ce qui se passe, c'est que les trois offices, c'est-à-dire la sagesse, non, ça c'est pas un office, le sacrifice, le sacrificateur, le roi et le prophète, tout l'Ancien Testament va nous montrer quoi? Il va nous montrer que dans ces trois offices, il n'y en a aucun qui est parfait. Les prophètes, on montre qu'ils disent des choses, qu'ils annoncent des choses, etc. Mais les prophètes ont leurs défauts. Ils doutent, ils ne comprennent pas toujours tout ce qui se passe, etc. D'accord? On va voir que dans le système des sacrificateurs, hein, comme Aaron, qui est sacrificateur, et qu'est-ce qu'il fait Aaron? Pendant que Moïse va méditer sur le mont Sinaï, qu'est-ce qu'il va faire Aaron?
Un veau,
ok. On voit vraiment que, hein, pardon,
en or.
Voilà. Et les rois, qu'est-ce qu'on va voir? Comme je l'ai dit, que tous les rois sont. On a espéré, par exemple, quand Salomon est arrivé au pouvoir, on s'est dit, ah, c'est lui le roi tant attendu, en fait. Le roi à ce moment-là est dans l'apogée. Hein, le peuple d'Israël est dans une au sommet finalement. Ça, l'or coule comme je ne sais quoi, ils font un palais énorme, un temple énorme, ok, et on pense, ça y est, c'est le bon roi, et on voit malheureusement, dans le livre des Ecclésiastes, ce roi qui est totalement désespéré, qui se demande quoi, et qui va périr à la fin, hein, ce roi, en 1000 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il va faire des compromis avec des épouses qui ne sont pas croyantes, qui font il va offrir des temples, des sacrifices à plein d'autres dieux, etc. Et de là va commencer à avoir la décadence. Alors, est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez pourquoi c'est important de comprendre comment est-ce que la Bible se développe? Parce que lorsque vous voyez, je fais une application concrète hein, ici, lorsque vous voyez dans votre vie qu'il y a un homme, Jésus-Christ, qui veut être votre roi, qui aime la justice, qui envoie un Saint-Esprit qui convainc de justice, oui. Quand vous avez dans votre application de vie la conviction de péché, oui, le Saint-Esprit convainc de péché, le sacrificateur c'est Jésus-Christ qui nous convainc que l'on pêche, oui, juste de péché, de justice et de jugement. Okay. Le prophète, oui, est celui qui veut nous éviter le prophète. C'est ce que nous on appelle aujourd'hui, en fait moi j'aime bien ça, je suis assez d'accord avec cette vision, c'est que le prophète, il est celui qui est un peu le psy. Oui? Il est un petit peu ce qu'on appelle le psychologue, c'est celui qui d'abord annonce, et puis essaie d'avertir, essaie de dire, écoutez, voilà, on essaie de récupérer un petit peu les morceaux, on essaie de se comprendre. Donc c'est le côté psychique. Il y a la loi, tu n'as pas obéi la loi, la justice. Il y a le péché, tu as péché, il y a une sanctification, on doit passer par le pardon. Et puis il y a la rédemption, c'est aussi l'œuvre du prophète. Le prophète, il doit annoncer, mais il doit dire aussi, voilà les conséquences, oui, voilà le problème de ton péché. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce verset-là, que ce verset fait un résumé de toute la Bible en l'Ancien Testament? Vous n'êtes peut-être pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Pour moi, quand j'enseigne la Bible, c'est avec ça que je pars. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que la Bible, elle est hyper bien ficelée. Elle montre trois choses. Elle montre que, un, tous les thérapeutes que vous allez voir sur toute votre terre sont tous corrompus. Ça veut dire qu'ils sont tous pécheurs, comme moi, comme vous. Que tous les pasteurs, tous les prêtres que vous allez voir, ils sont tous corrompus, pécheurs, comme vous et comme moi. Que tous les gouvernements, toutes les lois, tous les rois que vous allez avoir dans votre vie, dans notre vie, ils sont tous corrompus. Et ça, c'est tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament essaie de nous dire que tous ces systèmes ne fonctionnent pas du tout, et c'est pour ça que Jésus-Christ devait venir. Alors, il y a un auteur qui disait une très belle histoire. Il disait que une très belle histoire, quand elle est bien racontée, elle a toujours un début, un milieu et une fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, ce qu'on appelle, quand on fait une dissertation, on a un début, une introduction. Hein? Et puis après, on a le développement, le corps, hein? Mes idées, ce que je veux défendre.
C'est pas forcément comme ça.
C'est pas forcément comme ça, mais disons qu'il y a, dans une histoire, si je dis la pomme est tombée, et alors on s'en fout. Ok. Hein? J'ai un nez au milieu de mon visage. Ok. Super. Et alors? Il manque quelque chose. Et il disait que. Écoutez bien la suite, il disait, une bonne histoire, elle a toujours un début, un milieu et une fin, mais pas toujours dans le même ordre. Vous voyez ça? Mais pas toujours dans le même ordre. Comme le film...
Memento.
Hein? Memento,
je pense.
Memento.
Non, pas
comme le film. Enfin, il y a plein de films comme ça. Vous avez déjà vu ces films-là? Les premières minutes, c'est la fin du film.
Ah oui. On ne va pas raconter ça, par contre.
Et puis alors on fait, enfin bon, c'est déjà la fin. Et puis on dit, mais comment on est arrivé Et on est intrigué, on veut savoir comment est-ce que. Pourquoi lui fait ça? Et on ne comprend pas. Et après, Martin Scorsese va faire un travail de dénouement et on voit du passé, du présent, du futur, du présent, du passé. Et pour un peu parfois nous aider, il va mettre du noir et blanc ou des couleurs pour qu'on sache si on est dans le passé ou dans le futur quand on voit le film. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme dans Memento, on voit du noir et blanc et puis après de la couleur. Oui. Sauf que le noir et blanc, c'est le présent et la couleur, c'est le passé dans Memento. Donc, un film à découvrir. Pourquoi est-ce que c'est important que je vous dise ça? Parce que quand vous allez découvrir la Bible, si vous espérez un ordre chronologique, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et c'est ça qui parfois nous fait perdre un petit peu le fil. Est-ce que je suis dans une prophétie? Je suis dans une révélation, est-ce que c'est déjà accompli? C'est pour ça qu'il y a des grands débats sur Israël. Oui, que Israël est la toute grande nation et qu'il faut tout faire pour Israël, alors que peut-être qu'il y a déjà des choses qui sont totalement accomplies pour Israël. Que Jésus-Christ a dit, moi c'est ma vision, mais il y en a d'autres qui ne croient pas du tout ça. Il y en a qui disent que l'Église est l'Église et l'Israël est l'Israël et c'est deux choses totalement différentes. Oui, si on ne comprend pas comment est-ce que l'auteur va voir des choses dans le futur, va parler du présent et va parler du passé, on est complètement perdu. Et c'est un petit peu le problème de la Bible. Je m'explique. Prenons le livre de l'Apocalypse. Hein? Un livre qui semble être complexe pour beaucoup. Il va commencer avec des visions qu'il voit dans le futur, sur un cheval, etc. Et puis après, tout de suite, on va les trois églises. Aujourd'hui, les sept églises. Les trois chapitres des sept églises. Les sept églises. Et puis tout d'un coup, il remonte et il est dans le ciel. Et il voit des visions d'une porte, etc.
Il y a pas la structure de début, milieu et fin.
En fait, elle y est.
Le dénouement, il est vraiment... Enfin, la fin, elle est au milieu.
Absolument. Mais justement, Si on confond le début avec la fin et la fin avec le début et le mieux, par exemple, je donne un exemple pour moi qui est tellement évident, Apocalypse chapitre 20 et 21, on parle du millénium. Oui. On dit, voilà, il y a toute une partie qui doit arriver sur la terre, et puis il y a le millénium, il y a Jésus-Christ qui revient, et puis il y a 1000 ans qui se passent, etc. Moi, je rejette totalement ça, en fait. Totalement cette conception. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire que c'est ça que moi je comprends de l'écriture. Mais quand on connaît un petit peu comment on va voir ça, des sources d'interprétation, des manières d'interpréter, on va essayer de se nourrir chacun de ça pour vous convaincre que le millénium, on est dedans. Que pour l'instant, je suis en train de vivre ça. Quand on commence à comprendre le début, la fin, le milieu d'une histoire, dans un livre, et qu'on prend son temps, mais on est beaucoup mieux. On comprend beaucoup mieux les Écritures. Oui. Alors, juste pour votre gouverne, écoutez bien ceci. Pourquoi est-ce que l'Ancien Testament est fondamentalement important? Les auteurs des livres du Nouveau Testament font d'abondantes références à l'Ancien Testament. Dans l'Évangile de Matthieu, il est dit 92 fois. Dans l'Évangile de Marc, 35 fois. Luc, 58. Jean, 44. Dans le livre de Luc, dans le livre des Actes, 58 fois. Dans les épîtres de Paul, 179 fois. En Pierre, 31. En Jean, dans sa première épître, 5 fois. Dans l'Apocalypse, écoutez bien, c'est le record de tous les records avec Hébreux, 243 fois. Et dans l'épître aux Hébreux, ils disent 86. Bon, il y en a certains qui disent un peu plus. En tout cas, lequel a le monopole ? L'Apocalypse. Et quand on commence à comprendre que les auteurs du Nouveau Testament ne font qu'une seule chose, c'est quoi ? C'est de s'abreuver de l'Ancien. Ils lisent l'Ancien pour comprendre mieux leur temps présent. Ils viennent de voir Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, et puis ils vont commencer à écrire. Ou pendant même, il y en a certains qui pensent qu'ils écrivent déjà pendant. Mais ils sont en train de faire quoi comme œuvre ? Ils sont en train de dire comment est-ce que Dieu est en train de travailler dans ma vie, dans aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important ? Par exemple, Paul, il va parler d'une résurrection future. Il va dire qu'il y a une résurrection des corps, etc. Et c'est pour bientôt. Alors il y en a qui se disent, c'est pour notre maintenant, c'est pour bientôt. Et le mot va dire maintenant. Et donc il y en a qui disent, oui, la résurrection a déjà eu lieu, tout ça. Qu'est-ce que Paul va faire? Il va dire, mais non, Jésus-Christ, la résurrection, oui, lui est déjà ressuscité, mais la résurrection, elle est pour un temps qu'on ne connaît pas. Et le bientôt, ça peut être 2000 ans. Ça peut être, ok, on va devoir faire on va devoir travailler ensemble, comment est-ce qu'on interprète ça?
Donc c'est son bientôt à lui.
Ou c'est son bientôt, voilà, c'est bientôt, merci Manu, ça peut être le bientôt de Paul, hein, quand lui il parle. Par exemple, il va dire aux disciples dans Jean 6, il dit, il y a un jour de résurrection, okay, et au dernier jour vous serez ressuscité. Alors il y en a qui disent, est-ce que c'est au dernier jour du monde que je serai ressuscité, ou bien au dernier jour de ta vie à toi, etc. Est-ce que c'est possible? Alors, en tout cas, je termine ici avec les connaissances de l'Ancien Testament par rapport. Et Jésus-Christ, lui-même dans les Évangiles, fait référence à 22 livres des Écritures.
Sauf Esther.
Sauf Esther, mais encore d'autres aussi. Hein. Oui.
Non, de tout le Nouveau Testament, il n'y a que Esther qui n'a pas été repris par les auteurs du Nouveau Testament.
Par les auteurs, oui. Mais moi, je parle de Jésus lui-même. Parce que les autres vont parler de... Quand on remet tout le Nouveau Testament ensemble, il n'y a en effet que Esther qui n'est pas citée. Mais par exemple, lorsque Jésus va citer Noé, David, en citant David, il cite un roi, deux rois, un Samuel. Le Samuel, il est en train, un chronique de chronique, il est en train de citer 6 livres à la fois. Oui, vous comprenez ça?
Mais c'est une histoire.
Voilà. Quand il va dire Adam... Il va parler de Noé et d'Abraham, mais il est en train de dire, il donne crédit à toute la Genèse, d'accord? Donc ça c'est, je sais que vous le savez, mais c'est important. Alors, 2 Timothée 3,16, si tu peux la mettre, si tu veux bien. Alors, regardez bien, ça c'est un verset hyper, hyper connu, mais toujours bon de se rappeler, pour celui qui... Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et elle est utile pour nous enseigner, réfuter, c'est-à-dire... Non, réfuter, c'est pas bien. Ce que tu crois n'est pas bien. Ce que tu dis n'est pas juste. tu fais tort à l'écriture, oui. Voir redresser, c'est-à-dire avec ce côté de corriger, oui. C'est bien, mais c'est pas de l'entièreté. Et puis, apprendre à mener une vie conforme, donc apprendre une vie de sainteté. Manu, par rapport au péché que tu disais tout à l'heure, c'est un peu ça. Hein. Apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ok, vous suivez? Est-ce que ça vous donne envie de parcourir l'écriture? Est-ce que ça vous donne envie, Noé?
Pas envie d'être pris.
Hmm?
Pas envie d'être pris, je suis bien comme je suis.
D'être pris.
D'être repris.
Repris.
Ben oui.
Ah oui, d'être redressé, pardon, oui, repris. Il est repris aussi comme ça. Noé, dis-moi, est-ce que ça te donne envie? Parce que j'ai envie de te donner envie de lire l'écriture. Mais si c'est non, c'est pas grave. Hein.
On le fera quand même.
T'es pour? T'es pour l'écriture?
Oui, je suis pour.
Qui, jusqu'à présent, n'a pas encore reçu l'envie de lire les Écritures? Juste après ça. Ok, alors j'avance pour la suite. On arrive à la fin. Jean 6, 68, on peut lire Jean 6, 68. Merci Yann. Simon-Pierre va répondre, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Bon, évidemment, c'est un verset que j'ai déjà dit tout à l'heure. Évidemment, il y a un enjeu, c'est cette vie que Dieu veut que je mène sur la terre. Mais ce qui est important, c'est de comprendre l'œuvre de la parole de Dieu dans mon quotidien. On a dit, elle nous sanctifie. Alors, dans Ésaïe 55, il dit, il fait des images. C'est intéressant aussi de comprendre que dans la Bible, il y a des métaphores, il y a des images. Jésus-Christ va utiliser la semaille, il va utiliser la nature pour nous parler. Et là, il utilise la pluie. La pluie, la neige descend et il n'y retourne jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur la graine qui doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Oui. De même, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne revient jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. L'intention, évidemment, ici, de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle va faire une œuvre, quand on va la lire, de quoi? Son œuvre, c'est quoi? Ici.
Régénératrice,
une œuvre de... Tu as dit?
Transformation.
Transformation, oui. Elle va nous transformer. Oui. Est-ce que... moi, je vais me confesser, je me rends compte que j'ai tellement la connaissance de la parole sur certains points que je suis sous ma réserve, souvent. Est-ce que vous êtes comme moi? Oui. Vous avez tellement de la parole dans votre tête que parfois, ça vous arrive une semaine de ne pas la lire. Ou plus. Hein? Hein? Il y en a qui font ça. Deux semaines. Moi ça fait des mois que je n'ai plus ma Bible. Des mois. Oui. Et on... Ouais, merci, parce que je ne peux plus, je ne sais pas ce qui se passe ici. J'ai mortellement chaud ici. Mais j'ai ma ceinture, la ceinture me donne chaud à voir. Alors, merci. Donc il y a... j'étais où?
Les réserves.
Pardon?
T'es sur tes réserves.
Oui. Donc moi je suis en train de faire une confession ici. Donc je ne lis plus ma Bible depuis des mois. Je la lis quand je dois enseigner, je la lis quand je dois prêcher, etc. Oui. Est-ce que c'est bien de fonctionner sur ces réserves? Parce que comme par hasard, je me rends compte que quand je m'y plonge vraiment de nouveau, ben, que je la connais mais un peu déformée, qu'il y avait plein de versets que j'avais oubliés dans ma citation, hein, dans mon contexte. Oui. Et je me rends compte que, regardez bien ici, je me rends compte que, je suis arrosé, je suis fécondé, oui, okay. Je dois faire germer des graines et je donne du pain à tous ceux qui en mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, elle va accomplir des choses en moi, oui. Elle va faire pousser des choses en moi, mais elle va aussi faire que je vais être une source pour les autres. Donc pour moi c'est un défi moi-même. Je vous avais dit au début de l'année, au mois de janvier, de lire la Bible à l'arrache, oui, et de vivre à la Bible à
l'appel.
À l'appel. À l'appel et à l'arrache, c'était quoi à l'arrache? C'était quoi?
De grandes portions.
De grandes portions, ok. Bon, j'ai tenu au début, c'était bien, après j'ai plus tenu. Hein, il y a toujours bien quelque chose qui nous bloque. Donc merci de prier pour moi, qui doit mener cette parole souvent à vos cœurs.
Pourtant, tu as passé tout un temps à l'hôpital. Hein.
Oui, mais justement à l'hôpital. Moi, j'ai toujours rêvé qu'à l'hôpital, on puisse lire. Impossible. Tu es shooté de médicaments, c'est une parenthèse. Hein. Tu n'es pas bien, ton dos te fait mal, tu ne reçois pas une visite, etc. J'ai jamais su, je l'ai lu peut-être une fois, je crois, ma Bible. Vraiment, oui. Intéressant. Et alors, évidemment, le 17 février, quand j'ai dû prêcher sur la Sainte-Seine, là, je l'ai lu beaucoup. Donc voilà. Alors, je vais tout doucement arriver vers la fin. Je vais retrouver mes autres feuilles. J'en ai qu'une ici. Elles sont là. Voilà. Voilà. Une dernière chose, mais elle est pour moi une des plus importantes à dire. On parle de deux testaments, hein, un testament ancien et un testament le nouveau. Oui, le mot testament, c'est une alliance. On va, quand on prend la Sainte-Seine, annoncer que Jésus-Christ est venu pour une alliance nouvelle, oui, pour renouveler les choses. Mais alors, est-ce que ça veut dire que Dieu dans l'Ancien Testament était différent que dans le Nouveau Testament? Oui, il y en a beaucoup qui défendent cette position. Oui, mais bon, Dieu ne savait pas tout, il a fait avec, avant on pouvait tuer les homosexuels, maintenant on ne peut plus, vous voyez? Il est écrit des choses débiles dans la Bible. On se dit, mais enfin, c'est pas possible. Une personne qui ne faisait pas le sabbat, dans l'Ancien Testament, oui, était lapidée. La personne qui travaillait le jour du sabbat, le samedi à l'époque, hein, il était lapidé. Alors, est-ce que Dieu est différent dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament? Oui. Parce que ça va être important pour nous de comprendre. Moi, quand j'ai vu qu'on lapidait les homosexuels, oui, j'ai failli mettre le conseil biblique de côté pour la vie. Je me suis dit, c'est pas possible. Et il y en a beaucoup qui vont faire, comme un musulman, il va dire, il est écrit que nous, on doit porter la voile, le voile et qu'on doit frapper notre femme si elle n'est pas d'accord avec nous dans sa chambre parce qu'elle, elle le sait. Oui, mais chez vous, dans votre conseil biblique, il est écrit qu'on peut tuer les homosexuels. Vous voyez un petit peu? C'est énorme ça. Comment est-ce qu'on va gérer entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Comment est-ce que je peux savoir que je ne dois plus tuer un homosexuel? Oui? Et que si quelqu'un va commettre l'adultère, je ne dois plus le lapider avec des pierres. Comment? Est-ce que Dieu est différent dans le Nouveau Testament? Hein? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde des musulmans, on lapide encore avec des pierres l'adultère? Vous voyez, les enjeux sont énormes. Dites-moi si vous êtes comme moi.
Ben, moi, je suis un peu mitigé.
On est un peu mitigé. On a envie de prendre une pierre? Eh bien, justement, elle nous en a donné plein. Hein? Hein, merci Manu, on peut y aller.
Elles ont été bénies, d'Israël.
Elles sont bénies, oui. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes comme moi quand vous lisez ces versets? Vous vous posez des questions si Dieu a changé?
Hein? À un moment, je me suis posé ces questions.
Oui, à un moment, on s'est posé ces questions. On va y répondre ensemble.
Moi, je ne me suis jamais vraiment posé ces questions, mais...
Bien fort, hein, pour les...
Je ne me suis jamais vraiment posé ces questions, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être faire confiance ou quoi, mais c'est plus... Bon, et si on me pose des questions, qu'est-ce que je dois répondre? Parce que c'est bien gentil, moi j'ai ce que je crois, mais c'est pas avec ce que je crois que je peux expliquer à quelqu'un, pas le convaincre, mais lui dire, bah écoute, c'est différent, et mais pourquoi c'est différent? Donc ça, c'est intéressant d'avoir le cerveau de musique pour
mais est-ce que justement,
fixer nos idées.
Je sais pas si je peux déjà répondre, mais est-ce que justement, l'Ancien Testament, enfin quand on est avec l'Ancien Testament, une fois qu'on sait l'Ancien Testament, ses lois, ben en fait, on sait mieux apprécier ce que Jésus a fait.
Oui.
Puisque, dans la théorie, comme on est pécheur, ben normalement, c'est comme ça, voilà, la loi est comme ça. Normalement, c'était ainsi que ça doit fonctionner. Mais comme Jésus a tout racheté, ben, on n'a plus besoin.
Mais on n'a plus besoin. Mais pourquoi est-ce qu'à l'époque, on pouvait alors faire...
Parce que personne n'avait racheté. Personne, enfin...
Je comprends où tu veux en venir. En fait, Jérémy veut dire qu'il y a certaines catégories de lois, rituels, qu'on peut rapidement, facilement interpréter au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Il l'a fait une fois pour toutes, c'est terminé.
Oui.
Mais les lois morales, en fait, sont plus complexes à expliquer. C'est-à-dire, les convictions d'une personne, le péché est quand même là, je veux dire, d'une certaine façon. Et donc là, ça va demander quand même un peu plus de travail pour expliquer ça.
Voilà.
Mais je serai tout oui à cette affaire-là.
Redis-le. Attends, on va écouter, vas-y.
Je serai tout oui à l'explication qu'on va rechercher.
Voilà. Et justement, cette introduction au survol biblique, elle fait partie de vous donner envie. Vous voyez ? Comment est-ce que je sais savoir que certaines lois restent et certaines sont devenues casuelles, donc sont devenues anciennes et donc révolues depuis que Jésus-Christ est venu? Et comment ça se fait que Dieu a permis ces lois pendant un temps et puis après qu'elles sont finies et qu'elles sont révolues? Comment est-ce que je fais moi pour lire cet Ancien Testament en sachant que celles-là je peux les laisser tomber et celles-là je dois toujours les garder? C'était une bonne question que Manu même m'a posée d'une autre façon, hein, si tu me permets de le dire. C'est que tu m'as dit, mais comment est-ce que même avec les disciples, je sais savoir qui parle aux disciples et pas à moi, et puis après qui parle à moi et aux disciples, oui. Comment est-ce qu'on peut le savoir? On va tenter d'y répondre. Oui. Et donc, moi je voulais revenir donc sur la nouvelle alliance. Jésus-Christ va parler d'une nouvelle alliance, hein, et d'un nouveau commandement, c'est de m'aimer moi, Jésus-Christ va dire, oui. Pas seulement d'aimer Dieu, mais de m'aimer moi, comme vous aimez votre prochain. Et dans les alliances, il y a plusieurs alliances que Dieu va faire. Pourquoi est-ce que ces alliances sont importantes? Eh bien, regardez bien. Un, l'alliance de Adam, quand il envoie donc son premier homme, il lui donne une seule loi. Laquelle est cette loi? Cultive ton jardin, garde, et ne touche pas à... Okay? Au départ, la loi, elle est très simple. Mais pourquoi est-ce que le système de la loi va commencer à se multiplier à cause de la désobéissance? On va aller jusqu'à 611 lois, et aujourd'hui, dans nos pays, avec la jurisprudence qu'on a, on est à des milliers et des milliers de lois. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à la loi fondamentale. Dieu va multiplier ses lois. Alors ça, c'est la première alliance. L'alliance est faite avec nous, et il nous donne un commandement, c'est de nous multiplier. D'accord? On va voir après avec Abraham, qui va l'envoyer dans un nouveau pays. Donc d'abord, il y a le jardin d'Éden, puis les chassés de l'Éden, puis il y a un désir de refaire des choses avec Noé, ratiboise tout, on recommence avec Noé, ok, n'est-ce pas Noé? Et puis, on a Abraham, il va lui donner des bénédictions, il va dire, ok, moi je te bénirai, on va aller dans un nouveau pays, le pays d'Israël. Là, il va prendre le peuple d'Israël, okay, qui va l'amener dans un désert, et puis, ils vont aller dans le pays promis. Parce que, enfin, entre-temps, ils vont partir de ce pays promis, et ils vont revenir. Mais pendant 400 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays promis? Il y a eu des Jérébusites, des je ne sais pas quoi, hits, hein, qui sont arrivés dans ce pays et qui sont des barbares qui ont pollué le pays de Canaan depuis 400 ans.
Qui sont le fruit de la désobéissance.
Qui sont le fruit de la désobéissance parce que Joseph va être chassé. Mais ce qui est important, c'est de comprendre les alliances. Un, on a l'alliance de Adam, une loi qui lui est donnée. Deux, on a l'alliance de Abraham, qui lui dit...
Noé.
Et Noé, il va dire, bon, on va recommencer la terre... On va tout... Et puis, ils se rendent compte, mince, il y a un problème qui reste, c'est lequel?
Le cœur.
C'est le problème du cœur. Okay? Donc, même en supprimant la terre, il y a quand même encore après le problème du cœur. Donc, il va devoir... Il propose le programme de comment est-ce qu'on va travailler le problème du cœur. Et puis, il va faire partir du pays de Mésopotamie, où il y avait un peu de tout, polythéiste, plein de dieux, pour aller vers un nouveau pays, le pays de Canaan. Oui? Je vais passer, etc. Des trucs. Ce qui est très important, c'est qu'ils vont avoir ce système sacrificiel dans une tente, parce qu'ils sont nomades, ils se promènent dans le désert, etc. D'accord? Ils sont nomades. Et puis, de la tente, on va aller vers le dur. C'est quoi le dur? C'est le temple. Hein? On est en 1000 après Jésus-Christ. Et du temple, on va aller vers quoi? Du temple, hein? Du temple, on va vers quoi? Oui. Du temple, on va vers quoi? Oui, on va aller vers le corps et l'église. En fait, on va surtout se rendre compte que tout ça était temporel. Et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est important de se rendre compte que tout est temporel? Parce que si on comprend que du jardin d'Éden, on passe à un pays, puis à un tabernacle, puis un temple, et que tout ça était temporel, ça veut dire quoi, temporel? Il ne devait pas durer, oui. Donc ça veut dire, et ça, c'est évident, ça ne devait pas durer. Quand on voit Jésus-Christ, par contre, certaines lois, on ne comprend pas qu'elle ne devait pas durer non plus. Oui? Mais on se rend compte qu'il y a des alliances qu'il fait. Et pourquoi est-ce que je termine avec ça, je vous promets, c'est qu'il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a une révélation qui se fait de plus en plus développée. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, on vient avec Genèse 3.15, il va y avoir un serpent qui va être écrasé, et on va, il va mordre au talon, etc. On se dit, c'est quoi ça? Comme je vous avais projeté il y a deux semaines et vous avez fait je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme. Et ça, c'est écrit en Genèse, début. Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci va t'écraser la tête et toi, tu lui écraseras le talon. On avait dit, celle-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire que la mort va disparaître et lui va t'écraser le talon, c'est-à-dire qu'il va tous nous mordre au talon. Ça veut dire que tous moralement, on est tous tentés, tous boiteux en fait. Et tout le monde fait, comment tu sais dire ça dans cette... Comment est-ce que tu sais de ce passage-là dire que ça c'est le diable, que ça c'est la mort, etc. Mais parce que tout le conseil biblique nous le rappelle, nous va l'expliquer.
C'est le talon d'Achille.
C'est le talon d'Achille, absolument, mais c'est pour ça qu'on le dit. Et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre que la révélation est progressive, oui? Parce qu'on va comprendre qu'il y a de plus en plus d'éléments. Et c'est pour ça que quand on arrive à 400 avant Jésus-Christ, il n'y a plus rien à dire. Tout est dit. Il y en a qui se disent, mais pourquoi? Ça veut dire que pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé? Non. Ça veut dire qu'il n'y avait plus besoin de dire des choses. Il fallait que maintenant les choses se fassent, elles s'accomplissent. Ouais. Il y en a qui vont poser la question, pourquoi 400 ans et pas 200, d'autres 100 et pas 500? On n'en sait rien. En tout cas, c'était le conseil de Dieu qui était clair.
Avec le remerciement.
Et voilà. Mais pour revenir à un prophète, on va avoir les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. On va avoir le prophète Daniel. Qu'est-ce qu'il va annoncer, Daniel? Il va annoncer qu'il y a 4 royaumes qui vont d'abord précéder avant le royaume final, le royaume de Jésus-Christ. Le royaume des Assyriens, Babylonien, Perse, Grec, et puis après le royaume de Rome. Pardon, il n'y a pas la Syrie, puisqu'on est avec Daniel. La Syrie est déjà tombée. Mais on est Babylone, Perse, Grec et les Romains. Et pendant celui-là, il va nous annoncer le royaume final, c'est le royaume de Jésus-Christ. Donc tout ça, c'est écrit. Oui. Est-ce que ça ne vous donne pas... Waouh! Toutes les alliances qu'il va faire pour nous montrer de plus en plus qu'il veut vraiment se révéler pleinement à nous. Alors je termine avec Jérémie 31. Voilà le bouquet final. C'est que Jérémie 31 va nous annoncer l'intention la plus importante de Dieu. Et il y a des jours qui vont venir où moi, je vais conclure avec le peuple d'Israël et celui de Judas une alliance nouvelle, celle dont Jésus-Christ parle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Parce que cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici, quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, moi je serai leur Dieu et eux ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, hein, l'Esprit est en nous maintenant, en répétant chacun à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. L'Éternel les déclare, je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Et cette parole va être reprise texto dans Hébreu, hein, dans le Nouveau Testament. Il va dire, voilà maintenant, en Hébreu, je peux mettre juste Hébreu, Hébreu dit, voilà la nouvelle alliance, elle a été accomplie, Jésus-Christ nous a donné son esprit, hein, et... Voilà, cette alliance, puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, mais voici quelle alliance, moi je vais conclure avec eux, je placerai mes lois dans leur cœur. Et comment est-ce qu'ils placent les lois dans leur cœur?
C'est par l'Esprit.
Par l'Esprit.